Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Les jours passent, Nathalie se rétablit petit à petit. Les deux garçons se relient toujours pour la garder et lui tenir compagnie. La mère de Nathalie a été en maison de repos. Les jours passent, rien de nouveau. Puis, Nathalie redevient étrange, nerveuse, discrète. Un soir, qu'elle regarde fixement la télévision,
on connaît la légende d'Orphée,
l'air éteint,
la mythologie grecque,
d'un coup,
Orphée,
elle lui dit, j'ai l'impression de vivre une histoire sans fin. Son père, surpris et apeuré, lui demande, comment ? Elle lui dit, oui, toujours la même histoire.
Il descendit
d'ailleurs,
les charma.
Et nous vivons tous la même histoire.
Avec elle,
toi, moi, les autres.
Ne jamais la regarder.
Il se dit qu'avec effroi, qu'elle parle comme la vieille dame.
Par les bacchantes.
Il lui demande
où se passe.
Qui t'a appris ça?
Et à quelle époque?
Elle lui répond.
C'est le privilège.
Personne. Je me suis rendu compte toute seule.
Comme
il lui dit, c'est pas possible. Elle lui dit, quoi, c'est pas possible? Regarde-toi, ta vie, ma vie, c'est la même chose. Il la regarde avec effroi.
La légende d'Orphée.
Elle
dans la mythologie
éteint la télévision. À quoi bon? Il ne lui dit rien. les jours passent. Il y a des gens habillés proprement, qui vont deux par deux, deux hommes ou un homme et une femme, mais jamais deux femmes. Ils sont habillés en costume gris pour les hommes et portent cravate, leur chemise blanche est impeccable. Les femmes ont des tailleurs gris stricts, elles ont des cartables et des chaussures plates. Ces gens font du porte à porte. Un de ces hommes et une de ces femmes, grand, mince, blond, court pour l'homme, chignon pour la femme, dans les 40 ans. Ils entrent dans un immeuble sans âge, près de la gare Montparnasse, un immeuble simple. Petite allée étroite, escalier de pierre usé. Ils montent à pied jusqu'au cinquième étage. Qui est le dernier étage de l'immeuble. Arrivé au palier, il souffle un peu. Les étages sont hauts et les escaliers fatigants. L'homme va frapper à la porte de gauche. La porte s'ouvre. C'est un homme de taille moyenne, maigre, cheveux gris. Il porte une vieille veste en laine marron, à un vieux pantalon gris. Il demande « Qu'est-ce que c'est ?» L'homme qui a frappé lui dit « Bonjour monsieur, je m'appelle Frère Jean et voici ma sœur Berthe. Nous venons si vous apportez une bonne nouvelle, vous avez hérité. » Le vieil homme le regarde bien et leur dit, « Hérité de qui ? Je n'ai pas de famille. » La femme lui dit, « Nous avons tous une famille, la preuve. » Le vieil homme leur dit, « Et j'ai hérité de quoi ?» L'homme lui dit, « D'une fortune inestimable, fabuleuse. » Le vieil homme lui dit, « Eh bien, entrez !» L'homme, avant d'entrer, regarde le nom sur la porte et dit, « Merci, frère Auguste !» Et une fois qu'ils sont rentrés, ferme la porte. « Je suis votre frère. » L'homme lui dit, « Bien sûr, et sœur Berthe, c'est notre sœur. » Je ne savais pas que j'avais une famille. Une grande famille, l'homme lui dit, allons dans la salle à manger. Sur un petit couloir tout simple. Ouvre une porte. C'est une pièce de taille moyenne avec des meubles de 160. Formica, marron clair et une télé. Soyez-vous attendre. Il s'assoit. Et lui s'assoit en face d'eux. Je vous écoute, mon héritage. L'homme lui dit, Nous venons vous annoncer que c'est que vous avez hérité de votre père. Le vieux lui dit, mon père, ça m'étonnerait. Il n'a pas eu un sou. C'est un alcoolique invétéré. Alors, Berthe lui dit, pas votre père, le vrai, celui de tout le monde, Dieu le Père. Le vieux voit rouge et lui dit, je vois, vous m'avez eu, vous êtes des témoins de Jéhovah encore. Jean lui dit, non, surtout pas, c'est du sérieux. Vous avez réellement hérité un héritage fabuleux. Et qui vous donne tous les pouvoirs. Vous pouvez tout faire, tout avoir. Le monde vous appartient. Le vieux lui dit. Quel héritage vous voulez savoir? Eh bien, Dieu a mis en nous, en vous, l'intelligence. Et cette intelligence est faite pour dompter, pour vous, servir d'un outil formidable, d'une baguette magique, si vous voulez. Et cette chose qui a tous les pouvoirs, c'est l'ADN. Oui, Dieu fait don de ses pouvoirs aux hommes en leur donnant son pouvoir, celui avec qui l'on peut tout faire et qui est le chef, la clé de la fortune du paradis sur terre. C'est l'ADN. Avec l'ADN, la biotechnique, l'on peut tout transformer le monde comme l'on veut. Les hommes, les animaux, les végétaux, les métaux, tout. Tout ce que Dieu a créé, le vieux demande. Vous l'avez amené ce truc? Jean lui dit. Nous n'avons pas besoin de vous l'amener. Dieu l'a mis en vous. Oh, de partout, à l'intérieur de vous, nous vous l'expliquerons. Berthe lui dit, l'ADN est faite pour aider à retrouver le paradis perdu. Les hommes ont recréé un jour ce paradis dans le sixième continent. Ces hommes étaient des purs, les jeunes tout. Pontoi, Dieppe, etc. Ils avaient créé un monde merveilleux. Mais malheureusement, Dieu a tout détruit. Parce qu'il s'est infiltré chez eux des impurs. Nous voulons se retourner à leurs idées. Aux idées de ceux qui s'étaient approchés du monde de Dieu. Un monde collectif. D'inatalité, avec beauté, jeunesse, et tout ça grâce à l'ADN, qui est le fluide de Dieu, vital de chaque être vivant, et le fluide de Dieu est immortel. Le vieux ne sait plus où il en est, Jean lui dit. Tenez, votre ADN, votre corps à Dieu. C'est-à-dire au grand maître sur terre, et vous serez heureux et intelligent, jeune et en bonne santé. Faites donc de votre corps et de l'ADN. Jean sort de son cartable un papier et un stylo. Le vieux demande, qui est le fils de Dieu sur terre? Berthe dit, c'est le fils de Galien Dieppe, le vieux demande. Que fais donc de mes organes? Comment deviendrai-je immortel et tout? Jean lui dit. Parce que l'ADN est immortel. Et c'est parce que c'est le fluide de Dieu. Donc, il est mortel comme Dieu. Et lorsque vous allez mourir, ou plutôt votre corps va mourir, si vous signez, l'on prendra votre ADN et on le conservera, et pour que vous continuiez à vivre, on le mettra dans un corps jeune et beau. Comme cela, vous continuerez à vivre dans un beau corps. Et lorsque la personne mourra,
On prendra l'ADN et on le mettra dans un autre corps, jeune et beau. Ceci éternellement, ce contrat vous le garantit. La femme lui dit, vous n'aimeriez pas être beau et jeune éternellement? Le vieux lui dit,
oui, bien sûr, mais comment?
Jean lui dit, vous signez et l'on s'occupe de tout. Il met la feuille de papier devant lui avec le stylo. C'est écrit tout petit. Il y avait des phrases longues et difficiles à comprendre pour un homme simple. L'homme a honte, il n'ose pas rechigner. Alors il signe. Jean lui dit, n'oubliez pas votre numéro de compte.
Pourquoi?
Parce que pour payer les frais, nous demandons, c'est de nous financer, fassiez donc de tout. Avec le pacte, c'est facile. On choisit un héritier bidon pour prendre l'héritage. Allez, marquez. Et le vieux marque ton numéro de compte. Et il dit, Jean lui dit, frais de transport du corps à la clinique, de l'opération, des deux corps. Et si on n'a pas réussi à avoir un corps, on sera bien obligé d'aller à la chasse d'un autre.
Comment?
Ne vous occupez pas de ça. On a des gens spécialisés pour la recherche des corps pour nos clients. Jean remet le papier en place. Eh bien voilà, une bonne chose de faite. Ils se lèvent tous les deux et lui dit, nous allons être obligés, c'est de vous laisser. Auguste se sent un peu, comment dire, embarrassé. Il se demande s'il n'a pas fait une bêtise.
Eh bien, je m'en vais vous raccompagner.
Et il les raccompagne jusqu'à la sortie de l'appartement. Ils sortent du séjour.
Auguste dit, bien, au revoir et à bientôt, j'espère.
Berthe lui dit, oui, dans un monde meilleur.
Jean lui dit, ne vous pressez pas trop pour nous revoir. Et ils sortent de l'appartement.
Une fois dehors, Jean dit, un contrat de plus. Nous reviendrons dans l'immeuble plus tard. Les voisins ne doivent pas savoir. Berthe lui dit, elle va nous faire une bonne prime de rendement, 5 en un jour. Jean lui dit, la prime, pas avant que la chose soit faite. Berthe demande, ils sont en retard, ils n'arrivent pas à nous suivre. Une semaine de retard. Nous avons pris trop d'avance. Lui, par exemple, pas avant 15 jours, et il s'éloigne. Les jours passent.
Dit, Auguste est chez lui. On sonne à la porte. Il va regarder où je dors. Il voit un homme. Ouvre. L'homme lui dit, vous êtes Auguste Dentaire?
Oui.
Nous sommes les frères du monde nouveau, ADN. Auguste est surpris. Entrez, ils entrent. Mais ils sont trois. Trois hommes. Grands hommes. Habillés de costumes noirs. Un homme porte un grand sac PVC. L'homme a fermé la porte. Un des hommes dit. Nous sommes venus vous chercher. Le transfert est prêt. Auguste dit. Je ne comprends pas. L'homme lui dit. On a trouvé. Un transfert pour vous, 20 ans, beau et tout. On est venu vous prendre. Auguste comprend. Mais je ne suis pas mort. Pas maintenant, mais ça vient. Fermez les yeux. Vite, vous allez voir quelque chose. Et Auguste ferme les yeux. L'homme met un truc sur le front. Auguste tombe à terre. Raide mort. Un des hommes se penche. Le touche et dit. Je suis Mestin, médecin, constate la mort. Il sort de sa serviette une feuille. Et note sur cette feuille. Mort naturelle. Mais leur dit, je vais au commissariat et à la mairie pour présenter la chose.
Demi-heure plus tard, le commissaire vient constater la mort. Un autre homme en noir, qui est notaire, lui montre le contrat et dit « Don de son corps à la science, et tout est bon. Devons porter le corps rapidement. » Le commissaire accepte. Le don à la science, c'est sacré. Les hommes mettent le corps dans le sac en plastique et l'amènent à la clinique Genetou Pontoise. Pour lui prendre son ADN, quelques organes et le reste pour les chiens emportés. L'ADN et les organes seront mis au frigo pour plus tard.
Ça va, Yvon ?
Eh bien, après acceptation de la justice, ont été au groupe Jeune Tout Pontois. Les juges sont des membres du Sept Soleil. Sept Soleil, il y a des juges, des médecins, des notaires, des policiers, des hommes politiques qui gèrent toutes ces choses, tous ces dons. Comme ça, personne ne peut trouver à redire sur les origines et à redire sur le groupe ce que reçoit le groupe, autant de dons. Personne ne peut le savoir puisque c'est un circuit fermé. On fait aussi, pour le recrutement, des réunions dans des églises désinfectées. On leur passe un dessin animé qui présente la vie merveilleuse qu'avaient les gens en vivant dans le sixième continent. L'on voit même en dessin animé les fondateurs du sixième continent. Galien, Riquin, Danfort, etc., etc. Habillés de blanc, lumineux, le visage clair, les yeux bleus profonds. C'est Disney qui a fabriqué ce dessin animé qui deviendra plus tard une série pour la télévision. Et les jours passent. Edith est dans son bureau. Elle réfléchit et prend son téléphone. Fait un numéro. Allô? Ici Judith. Passez-moi Monsieur Cabasson. Merci. Monsieur Cabasson, bonjour. Ici Judith. Vous allez bien? J'aimerais, si vous rencontrez, s'il vous plaît, disons, demain matin à 9h30. Ça vous va? Merci. Alors, à demain. Elle raccroche. Elle se dit, plus vite nous aurons réglé cette affaire, mieux cela vaudra. Elle va voir le vieil homme dans sa maison. Arrêter sa voiture, sort de voiture et va au vieil immeuble. Elle entre. Elle va au fond de l'allée du vieil immeuble. Ouvrez la porte. qui mène à la petite cour. Longe la petite cour. Où se trouve la petite maison. Et là, elle va sonner à la petite maison. La porte est ouverte. C'est le domestique. Elle lui dit « Bonjour. Je suis attendu. Entrez. Merci. » Elle entre et ferme la porte. Entrez. Et il l'amène au premier. Elle dit « Mademoiselle Laure » et la fait entrer. Il est là, assis dans un fauteuil près de la cheminée, une couverture écossaise à ses genoux. Il lui dit « Venez vous asseoir ». Elle va s'asseoir dans un fauteuil qui est près de lui et lui demande Elle lui dit, il s'est aperçu de quelque chose. Le vieil homme lui demande, il faut faire quelque chose. Elle lui dit, il est incorruptible. Je l'ai convoqué demain à 9h30. Nous verrons bien. Depuis le décès du comptable, nous l'avions mis, mais nous n'avions pas eu le temps de le remplacer. Il faut absolument m'en trouver un autre, le plus vite possible. Un groupe comme celui-là ne peut pas rester sans comptable. Je vais être obligé d'en embaucher un qui ne serait pas de nous. Et vous voyez toutes les difficultés que cela peut apporter. L'homme lui dit, je ferai de mon mieux pour en trouver un. À 9h30, dans le bureau de Judith, le téléphone sonne. Elle a décroché.
Allô? Madame, c'est Monsieur Cabasson. Il est à l'accueil et dit que vous l'attendez. Oui, faites-le entrer.
Elle soupire et a mis son tablier rouge très collant, nu dessous. L'on sonne sur le voyant. Elle appuie sur le voyant vert. La porte s'ouvre. Et apparaît M. Cabasson, un homme grand, mince, blond, le regard très doux, un peu enfant. Il a 30 ans, porte un costume marine. Elle lui dit « Entrez ! Venez vous asseoir, M. Cabasson. madame.
Et il va s'asseoir face au bureau. Elle lui dit,
voilà, monsieur Cabasson, je vous ai fait venir, c'est pour vous demander où vous en êtes du bilan de cette année.
Monsieur Cabasson lui dit,
c'est fini, il ne me reste plus qu'à l'amener à l'expert comptable. Mais malheureusement, j'ai un gros ennui. Il y a un trou incompréhensible. Ce sont des prélèvements non justificatifs, comme si une personne avait pris de l'argent durant l'année. Je ne sais comment faire. L'expert comptable va voir ce trou, les impôts aussi, le ministre des Finances aussi, et lui demande, vous pouvez pas le camoufler, le faire passer pour quelque chose. Il lui dit, c'est impossible. Un comptable n'a pas à falsifier. S'il le fait, c'est un acte criminel. Elle lui dit, il faut bien faire quelque chose. Il faut bien présenter un bilan comptable. Tenez, une idée. Je ne sais pas, moi. Nous avons créé une association pour aider les jeunes artistes. Ça se fait beaucoup. Ça se fait bien. Le monde des affaires qui se marie à l'art, etc. Il lui dit, oui, mais l'association n'existe pas. Elle lui dit, créons-la. Juste avant de donner le bilan comptable, une association de dernière minute. Il lui dit, ça ne pourrait pas aller, puisqu'elle n'a pas été créée l'année dernière. Elle lui dit, vous donnez un chèque à la personne qui inscrit l'association. Comme cela, il falsifie sa date. Beaucoup d'entreprises créent des associations pour justement falsifier le travail des comptables. Alors, pourquoi pas nous? Il lui dit, j'aime mieux pas faire ce genre de choses. Et puis, je veux savoir où l'argent a été. Il lui dit, il n'y a pas que vous. Mais il n'y a que vous qui pouvez nous le dire. Il lui dit, et alors? Et celui qui a pris l'argent? Elle lui dit, oui, bien sûr. Bon, je vois que les choses vont rester en état. Il faudra bien trouver une solution. Sans quoi, pas de bilan, plus de groupe et de travail pour nous. Réfléchissez-y. Elle sourit et lui dit, bon, cela ne nous empêche pas de nous détendre un peu. Vous voulez voir quelque chose? Il lui dit, oui, merci. Elle lui demande, un bonbon? Il lui répond, oui, merci. Et elle se lève. Elle lui dit, allons nous asseoir, nous serons mieux. Il se lève et il la suit. Elle a mis une jupe tailleur très courte, des bas noirs, elle est nue, talons rouges. Il remarque tout ça. Le coin bas, c'est deux grands fauteuils en cuir noir, une table basse. Contre le mur, il y a le bar. Asseyez-vous. Il s'assoit. Il lui a montré un fauteuil, il s'est assis. Elle va au bar prendre une bouteille de bonbon et deux verres. Et sert. Tenez, merci.
Oui. De s'asseoir en face de lui. Et s'est mise de telle sorte qu'il puisse voir qu'elle ne porte pas de petite culotte. Après avoir bu une gorgée, elle lui dit « Ça fait du bien. » Oui, ça fait du bien de s'étendre un peu. Vous ne trouvez pas ? Il lui dit, oui, bien sûr. Il pose le verre sur la table et lui dit, c'est très fatigant, la comptabilité. Il lui dit, oui, assez. Surtout lorsqu'on a beaucoup de responsabilités. Toutes ces factures donnent les en vrac comme ça, que l'on doit trier, trier, vérifier. On doit mettre dans l'ordinateur que des chaussures. Ce qui est de décevant, c'est que l'on travaille toute l'année en faisant très attention et que l'on tombe dessus un trou de comptabilité. Incompréhensible. C'est comme si on avait mal travaillé pendant toute une année. Et lui dit, oui, je vois l'horreur. Ce n'est pas votre dossier ici, mais je ne m'en souviens plus. Mais c'est vous qui avez choisi ce métier de grande responsabilité. Il lui dit, moi, j'aurais aimé travailler dans le cinéma, être metteur en scène. Mais malheureusement, ma famille était peu fortunée. Alors j'étais obligé de choisir un métier plus sûr et qui rapportait de suite un bon salaire. Je ne dis pas que je n'aime pas la comptabilité, non, je me suis mis à aimer. Mais je ne savais pas que j'allais avoir à résoudre ce problème, un problème pareil, et cela dès ma première année. Elle lui dit, vous n'êtes pas seul, tout le groupe est là pour vous aider à le résoudre. Elle lui sourit et lui demande, vous vivez seul? Il lui dit, je suis célibataire et je vis avec ma mère qui est veuve. Elle lui dit, vous devez avoir pas mal de succès auprès des filles. Beau garçon comme vous êtes, il est tout rouge. Elle lui dit, je ne sais pas, je vois peu de personnes. Elle lui dit, eh bien, si vous voulez, je vous invite à prendre un verre à la sortie ce soir. Je ne sais pas, c'est mon travail et ma mère. Elle lui dit, votre travail, de toute façon vous êtes coincé et votre mère un coup de fil. Vous lui direz que... Ben, vous lui direz bien entendu que ce n'est pas moi qui vous invite, mais que c'est un copain. Elle se lève, va vers lui, s'assoit sur le rebord du fauteuil, lève légèrement une jambe et lui dit, tiens beaucoup, est-ce que l'on boive un verre ensemble, n'est-ce pas? Elle se lève, il est tout rouge, et lui dit, il faut que je vous laisse partir, autrement on va se demander ce que l'on va faire, ce que l'on fait. Il se lève, et fait, oui, merci. Et elle le raccompagne jusqu'à la sortie. Au revoir, monsieur Cabasson. Au revoir, madame. Elle retourne à son bureau. Elle se dit, joli garçon. Dommage. Sortie du bureau, elle sort, elle est accompagnée de Lapin. Elle voit qu'il l'attend. Elle dit, au revoir mademoiselle Lapin. Au revoir Judith, à demain. Et mademoiselle Lapin la voit aller vers le comptable et partir ensemble. Elle se dit, lui aussi, le plus beau garçon. Alors, quelle femme cette Judith ! Judith dit à Cabasson, disons Henri, parce que c'est son prénom. Je connais un petit café sympa, venez. Il la suit, tout ému, en se demandant si une amie de sa mère le voyait avec cette femme, qu'est-ce qu'elle dirait ? Et elle le mène dans un café Jean étudiant. Trouve une place pour s'asseoir dans un endroit tranquille.
Et pour boire,
et c'est assis en biais de lui.
On peut avoir de café, s'il vous plaît.
Un serveur, grand, à moustache, vient vers eux. Qu'est-ce que ce sera? Henri demande à Judith. Qu'est-ce que vous voulez boire? Elle lui dit, un martini. Henri dit, deux martinis. Et le serveur s'éloigne. Et lui demande, votre mère n'a pas trop fait d'histoire? Vous ne rentrez pas tout de suite? Il lui dit, je lui ai dit que j'étais avec un ami. C'est bien, ne dites jamais une amie. Les mères sont toujours jalouses. Le serveur vient leur apporter les boissons. Henri donne en vitesse la carte pour payer, car il a peur qu'elle paye pour lui. Il en aurait honte. Une fois que le serveur est parti, elle lui dit, moi je vis seule, dans un grand appartement. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu, production, plus en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.